au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 quatre fois bonjour. Quatre fois bonjour d'abord parce qu'il fait certainement quatre fois plus beau aujourd'hui. Il y a quatre fois moins de pluie qu'hier. Maurice, bonjour. Et toi, c'est le 4 août aujourd'hui aussi. Oui. Hein? Quatre fois bonjour pour le 4 août.
Ou entre autres, oui.
Puis?
Ah oui, c'est la journée des véhicules utilitaires.
Ben oui, les 4 août.
4 août.
Bon, alors broumtch, comme diraient les gens qui font de l'humour. Ben aujourd'hui, je vais tout de suite vous dire là, que c'est vraiment pas la même situation qu'hier. Écoute, c'était le déluge hier dans certains coins du Québec. Il y a eu des inondations et des glissements de terrain. On va en reparler tout à l'heure dans les unes. Mais bon, aujourd'hui, là, ça va être ensoleillé. On retourne dans la chaleur et on retourne dans la lourdeur. Parce que les humidex vont être très élevés. Ça, c'est partout. Sud et centre du Québec, Ontario. Par contre, Saguenay, Gaspésie, c'est plus frais avec de la pluie par endroit et des orages et des averses dans le nord ontarien. Mais ça demeure quand même dans le nord ontarien humide. Et des averses ce matin dans les provinces maritimes, donc le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. Alternant soleil et du nuage, mais quand même, on a de l'humidex. C'est que ça reste frais, donc à Terre-Neuve, et c'est généralement ensoleillé 20 à 21 dans tout l'ouest du pays et pas d'humidex. Bon, ça a l'air que les autres, ils sont avantagés cette fois-ci et pas nous. Et puis aujourd'hui, on a une émission avec plusieurs chroniqueurs, chroniqueuses. On commence avec notre chroniqueur, comment est-ce qu'on pourrait dire, voyage. Et on va donc jaser tout de suite avec André Lacombe. Allô, André.
Bonjour, Denis Martin.
On va où aujourd'hui?
Le comté de Prince-Édouard, en Ontario, qu'on connaît mieux sous le nom Prince Edward County.
Oui.
Un magnifique coin de pays où on trouve notamment les plages magnifiques de Sandbanks, très appréciées des Québécois.
Ah oui, oui. Oui. Et ça reste au Canada?
Tout à fait. Ouais, gros avantage.
Gros avantage, puis ça évite d'aller donner de l'argent à ceux qui appuient Donald Trump. Bon, OK, voilà. on l'a dit, on ne faut pas dire ça, Bien, d'autre part, il y aura d'autres chroniques aujourd'hui. On va parler économie avec Michel Poitevin. On va aussi parler livres avec Anne-Marie Aubin. J'ai une entrevue avec Nadia Kunda, qui est actrice, pour parler du film « L'héritier des secrets ». C'est intéressant, ce film, parce que c'est une production marocaine et canadienne. Et c'est un film qui aborde un sujet très d'actualité dans un autre contexte. Je pense que je vais attendre pour vous en parler de ce sujet lorsqu'on fera cette entrevue pour ne pas trop divulgâcher l'émission. Et puis aujourd'hui, c'est le 4 août. Eh bien, il y a exactement 65 ans aujourd'hui, naissait Barack Obama, qui a été le 44e président des États-Unis. Alors, il y a à peu près une semaine et un jour, deux jours de plus jeune que moi. Et donc, on se rappelait donc, son élection en 2008 en Yes, We Can. 1901, c'est la naissance de Louis Armstrong, hein, qu'on connaît, le légendaire trompettiste et chanteur de jazz américain, considéré comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire de la musique. Et puis, l'année d'après, c'est un décès marquant, celui de « Happy Birthday to You ». Mr. President, ben oui, Marilyn Monroe, actrice et icône de la culture pop dont la vie tragique et mystérieuse continue de fasciner le public, elle était connue pour « Les hommes préfèrent les blondes ». Et on va souhaiter aujourd'hui un excellent anniversaire, bonne fête nationale à tous les ressortissants ivoiriens, parce que le 4 août est célébré comme la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Ça marque l'anniversaire de l'indépendance du pays par rapport à la France. C'est une journée de célébration, de défilé et de réflexion sur l'histoire du pays. Qu'est-ce qu'on en apprend des choses en lisant l'éphéméride du jour? Hein?
Tout à fait, oui. j'adore les éphémérides.
Ah, moi aussi, j'adore. J'essaie tous les jours de trouver des sujets qui peuvent nous toucher, même quand c'est loin comme la Côte d'Ivoire, parce qu'on connaît plein d'Ivoiriens, il y en a plein qui vivent ici au Canada aussi. On les salue en passant, on leur souhaite de passer un bon 4 août. Et puis nous, nous allons en musique.
Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de temps. Et s'il ne reste plus rien du tout, je t'écrirai une chanson pas comme les autres.
Recommence-moi par Santa.
Eh bien, dans la une de tous les journaux ce matin, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur plusieurs régions du Québec ont provoqué d'importants dégâts et forcé plusieurs municipalités à intervenir d'urgence. Dans la municipalité de l'Ascension, située dans les Laurentides, l'état d'urgence a été décrété à la suite des précipitations massives. L'accumulation d'eau a entraîné un important glissement de terrain et l'érosion du réseau routier causant la fermeture de plusieurs axes routiers et coupant l'accès à plusieurs résidences. Les équipes municipales travaillent sur le terrain afin de sécuriser les lieux et d'évaluer l'ampleur des travaux de réfection requis. En Mauricie, la communauté de Wemotassi a fait également face aux conséquences de ces intempéries. Les fortes pluies ont fait monter en flèche le débit des rivières environnantes, augmentant donc considérablement le risque d'inondation. D'ailleurs, là aussi, un glissement de terrain a été signalé et poussant les autorités locales à surveiller étroitement l'évolution du sol et la stabilité des infrastructures routières menacées par le ruissellement. À Montréal, l'impact des pluies torrentielles ravive la colère et l'inquiétude chez les citoyens touchés par le refoulement des eaux. Plus d'une centaine de résidents affectés réclament de nouveau des solutions concrètes et durables de la part de la métropole. Les sinistrés dénoncent la vulnérabilité récurrente du réseau d'égouts lors de ces événements météorologiques extrêmes et demandent un calendrier clair pour la mise à niveau des infrastructures d'évacuation des eaux de pluie. Les autorités municipales et les services d'urgence poursuivent le bilan des dommages matériels et maintiennent une surveillance accrue sur les cours d'eau dont le niveau demeure élevé. Dans la presse plus, Cassandra, c'est un nom fictif, victime de violences conjugales pendant 13 ans, a encore des frissons en repensant aux menaces qu'aurait proférées son mari contre elle. Elle garde les douloureuses séquelles d'une relation qu'elle vit teintée par le contrôle. Plus elle gagnait en indépendance, plus le danger la guettait. Les conjoints violents enlèvent graduellement les moyens d'autonomie pour garder l'emprise, résume la femme de 39 ans. Peu après la séparation, elle veut s'installer près de ses proches. Elle avait peur pour son enfant, mais elle ne pouvait pas changer de région administrative en raison de la garde partagée de leur fils. Le système favorise le contact avec le parent sans prendre en compte la réalité de la violence conjugale, a-t-elle constaté. Là où j'habitais, c'était tout petit. Je ne pouvais pas lui échapper, décrit-elle. Changer de décor donc devenait illégal. Cassandra a tout de même suivi son instinct et a décidé de s'éloigner de son ex-partenaire. Elle a donc été accusée d'outrage au tribunal pour ne pas avoir respecté l'ordonnance de la cour qui la forçait à demeurer dans la même région. La presse a pu vérifier les dires de la victime en consultant plusieurs échanges de courriels impliquant Cassandra, son ex-conjoint et leurs avocats. La presse a aussi consulté le rapport des policiers rédigé à la suite de sa plainte, ainsi que celui produit par la Direction de la protection de la jeunesse. Les féminicides qui font les manchettes cette année la choquent, en fait. Son ex-conjoint est aujourd'hui mort d'une maladie. Je suis certaine que lui et moi, ça aurait fini comme ça. Il était malade, n'avait plus rien à perdre. Il m'aurait tué, dit-elle. Avec plusieurs témoignages, donc, aussi troublants, le reportage met en lumière la complexité Avec plusieurs témoignages aussi troublants, ce reportage met en lumière la complexité du parcours des victimes de violences conjugales qui tentent de quitter un conjoint violent. On y démontre les nombreuses barrières logistiques, financières et administratives auxquelles se heurtent les personnes victimes au moment de fuir leur domicile. Entre la pénurie de logements abordables et le manque de place dans les maisons d'hébergement d'urgence et la dépendance financière, souvent imposée par l'agresseur, le départ d'un foyer violent devient un véritable parcours d'obstacles. Les intervenants du milieu soulignent que ces embûches augmentent le risque que les victimes demeurent dans un milieu dangereux où ils retournent, faute de ressources immédiatement accessibles. La gestion de l'urgence et la recherche d'un soutien juridique et le maintien de la sécurité des enfants complexifient davantage les démarches de rupture. Les organismes spécialisés réitèrent la nécessité de renforcer les services d'accompagnement et d'accroître la disponibilité des ressources de logement de transition à travers la province. Et puis une modification majeure, c'est dans le Devoir, touchant l'emploi de la langue française, secoue le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes. En vertu d'une mise à jour de la politique linguistique interne découlant de la modernisation de la loi sur les langues officielles, la désignation linguistique des unités et des bureaux de défense est désormais supprimée. Les concepts d'organisation ou d'unité unilingue française ou bilingue n'existent plus au sein des ordonnances de la défense. Désormais, la langue de travail dépend uniquement de la région géographique où se situe le bureau. Cette décision touche une centaine de bureaux de la défense à travers le pays. Dans les secteurs désignés unilingues anglophones, l'obligation d'offrir un milieu de travail ou une supervision en français s'annule, limitant ainsi l'usage de la langue officielle minoritaire pour le personnel francophone qui y est affecté. Les autorités fédérales soutiennent que ce changement vise à harmoniser les règles administratives et à corriger les difficultés de l'application de la loi.
J'ai même pas hésité avant de partir, avant de lui donner ma nuit, avant de me faire mal, avant de lui donner ma vie. Si on doit s'enfuir, on s'enfuit et tant pis. Pour la belle bague, à n'importe quelle heure j'arrive, où que ce soit dans la vie. Plus le temps passe et plus j'ai envie de la sentir. Je veux la garder près de moi, je veux lui montrer là où j'habite, lui présenter ma famille. J'ai même pas hésité à prendre des risques, à payer pour ses narines, à prendre son mal, pour qu'elle reste près de moi. Si elle doit s'enfuir, elle s'enfuit et tant pis. Pour le mariage, merci pour le voyage, il faudra que je tourne la page. Elle a embarqué mon âme dans le démon. On se drogue, on se défonce là dans le démon. C'est quand elle veut qu'on se voit, quand elle veut qu'on se bat. Elle a embarqué mon âme dans le démon. On se drogue, on se défonce là dans le démon. C'est quand elle veut qu'on se voit, quand elle veut qu'on se bat. Elle a besoin de love, elle a besoin de drogue, mais c'est qu'une folle.
je l'abandonne, elle est morte. Elle a besoin de l'eau. Je veux juste la sauver de cet horrible cauchemar. Je sens qu'elle a besoin de moi. Elle a besoin de love. Elle a besoin de drogue, mais c'est qu'une folle. Si je l'abandonne, elle est morte. Elle a besoin de l'eau. Je veux juste la sauver de cet horrible cauchemar. Je sens qu'elle a besoin de moi. Elle a besoin de l'homme.
Me demande par Ambre.
C'est le moment maintenant de la chronique Voyage avec André Lacombe. Allô, André.
Bonjour, Denis Martin.
Alors, on se rend dans un comté de l'Ontario, connu oui. comme le comté de Prince-Édouard.
Tout à fait.
Et donc, le Prince-Édouard County, il y a beaucoup de plages. Alors, d'abord, dites-nous, où se trouve le comté de Prince-Édouard? On sait que c'est en Ontario, mais où exactement?
Alors, c'est une presqu'île, en fait, qui avance dans le lac Ontario, tout de suite à l'ouest de Kingston, un peu plus de 300 km de Montréal. Alors, pour s'y rendre à partir de Montréal, la façon la plus rapide, c'est d'emprunter l'autoroute 20, direction de Toronto, qui devient la 401, bien sûr, rendue en Ontario. Et vous sortez ensuite à la hauteur de Belleville, ou un peu avant, un peu après, là, il y a quelques sorties, et vous vous dirigez plein sud. Ça représente à peu près 3h30, 4h de route.
Non, c'est quand même pas si pire. Là,
oui.
Ouais, parce que pour aller à Old Orchard, Hogan Quit, c'est beaucoup
plus long.
C'est
pas mal plus long.
C'est
6 heures.
C'est, voilà, puis le dollar américain vaut trop cher.
Absolument. Oui.
Alors, donnez-nous maintenant un aperçu général de l'endroit. Là. On parle de plage, entre autres.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une presqu'île qui est parsemée de baies, souvent très, très longues, des baies du lac Ontario. Ça représente autant d'avancées de ce lac magnifique dans les terres. Ça contribue à des paysages magnifiques, vraiment. L'eau est partout. C'est une région essentiellement agricole, connue notamment pour ses vignobles, un peu comme la vallée du Niagara, mais sans en avoir l'ampleur quand okay. même. On retrouve là plusieurs coins de nature sauvage, très paisible. C'est très bucolique. C'est l'endroit parfait pour décrocher et se sentir en vacances, loin de la maison, même si, comme on le disait, c'est pas si loin dans le fond.
Oui. Ah, s'il faut revenir parce qu'il y a une urgence, c'est pas si pire.
C'est pas si pire. Et quoi de mieux, Denis Martin, pour se sentir en vacances que d'aller à la plage?
Hein? Ah oui, on aime ça.
Alors, le parc provincial Sandbanks compte 3 plages magnifiques sur les rives du lac Ontario. Alors, tout d'abord, je vous l'ai décrit, donc tout d'abord pour les familles avec de jeunes enfants, la plage Outlet, idéal avec ses eaux peu profondes, son rivage en pente douce. Donc, pour les enfants au pas un peu vacillants, c'est parfait. On retrouve là également des toilettes facilement accessibles, des blocs sanitaires très bien équipés. Il y a ensuite la plage Lakeshore, qui a un côté un peu plus sauvage, une très longue plage, idéale pour marcher, pour les belles grandes marches. Avec là aussi une descente dans l'eau en douceur. Et comme on ne voit pas l'autre rive, on a l'impression vraiment d'être sur le bord de la mer. Les vagues en moins, mais on a vraiment l'impression d'être très loin sur le bord de la mer. Sable très fin, on se croirait presque dans le sud. J'aurais pas cru ça. Souvent, le sable de nos plages est plutôt beige, assez gros.
Ouais.
Là, on parle d'un sable
des fois avec des cailloux
assez fin.
Oui, tout
à fait.
Ouais.
Et finalement, la plage des dunes, qui donne sur une grande baie fermée qu'on nomme Westlake. En fait, Westlake, à l'origine, c'était un lac distinct du Grand Lac Ontario, mais maintenant, ils ont pratiqué une ouverture, ça en fait partie, mais ça fait vraiment comme un lac distinct. Alors, étant donné ces plages, bien, Sandbanks, ça semble devenu la solution de rechange à la côte est américaine pour beaucoup de Canadiens, et je dirais pour beaucoup de Québécois, si j'en juge par le nombre de plaques automobiles qu'on a croisées de plaques du Québec. Les deux journées où on était là, c'était impressionnant. Ah. Et sur la plage, on aurait dit que tout le monde parlait français. Alors, c'est très, très populaire auprès des Québécois.
Bien, ça démontre un peu que depuis ce boycott qui a été décrété,
oui.
En fait, les compagnies aériennes ont beaucoup moins de vols. On a annulé des vols vers les États-Unis.
Absolument.
Et là, on se rend compte que les gens voyagent beaucoup plus à l'intérieur du pays parce qu'aussi, il y a quand même un facteur économique. Là.
Le facteur économique est là. Le facteur géopolitique, malheureusement, qui n'aide pas du tout. Et on sait même que les douanes routières ont beaucoup, l'affluence a beaucoup diminué vers les États-Unis.
Les chiffres sont là pour le démontrer.
Tout à fait.
Ouais. Donc,
donc, si on revient au parc de Sandbanks, ben, mieux vaut acheter son billet, en ligne quelques jours à l'avance, surtout si vous y allez pendant la période la plus achalandée, qui est à peu près de mi-fin juillet jusqu'à la mi-août. Nous, on était là juste un peu avant, donc on a pu accéder au site en achetant notre billet la veille. Alors, si vous y allez en septembre, par exemple, qui sera sûrement une belle période, d'après moi, vous n'aurez pas besoin de faire ça là, de plusieurs jours d'avance. En plus des plages, ben, le parc compte quelques courts sentiers de randonnée. Le plus intéressant, à mon avis, se nomme le Sentier des dunes, qui est établi au sein de la plus grande formation de dunes en eau douce au monde. C'est une dune de 12 km de long et dont la largeur varie de 100 mètres à 1,5 km selon l'endroit. Il y a des tentatives qui ont été faites là, au fil des ans, des siècles même, pour tenter de domestiquer ces dunes, dont l'établissement d'une usine même à un certain moment, mais l'ensablement se poursuit sans relâche, donc les gens ont lâché prise. Et pour le mieux, la végétation a repris ses droits. Ça donne un curieux mélange de dunes à découvert puis de forêts basses installées dans le creux des dunes. C'est à voir, vraiment. Mm-hmm. Et il y a un beau sentier qui sillonne ça. Et si vous aimez le camping, bien, le parc compte de nombreux terrains très prisés sur 5 sites. Ça, il faut vraiment réserver longtemps, plusieurs mois à l'avance.
Oui, je peux comprendre. Et on fait ça comment?
Bonne question, ouais. Denis Martin. Ça, je n'ai pas... je vais vous donner une adresse de toute façon.
Oui, sur le site web.
Qui est ontarioparks.ca, OK? Parks, P-A-R-K-S, /park au singulier, /sandbanks, pluriel, /FR. Et je vous donne aussi cette adresse parce qu'on y retrouve de l'information sur des éléments et infrastructures qui existent pour faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap. On parle de fauteuils roulants de plage, de tapis de plage, de blocs sanitaires adaptés. Alors, vous aurez plus de détails en consultant le site web.
On retrouvera toute l'information. En terminant, donc, parlez-nous de ces petits centres urbains et autres attraits de la région.
Alors, non loin de Sandbanks, je vous suggère de vous rendre au Local Store. C'est la boutique du comté qui regroupe les produits d'à peu près tous les artisans du coin. Soit qu'on parle d'art visuel, de produits alimentaires, de produits textiles, vêtements, napperons et autres. Ensuite, poursuivez votre route vers Picton, 10 à 15 minutes plus loin. La petite, mais principale ville, 4500 habitants. Hein, c'est une région rurale, donc il n'y a pas de grande ville là. Plusieurs boutiques d'art et d'artisanat là aussi, des restaurants, toutes les commodités d'un petit centre urbain. Et à plus petite échelle encore, tout juste au nord de Sandbanks, la petite ville de Wellington, qui offre à peu près le même genre d'environnement, mais magnifiquement située sur les rives du lac Ontario. Et on ne peut parler du comté de Prince-Édouard sans parler de la quarantaine de domaines viticoles qui sont présentement en activité. Le sol calcaire, sablonneux, bien drainé, les hivers doux de la région, tout ça constitue un territoire de prédilection pour la culture de la vigne. Et parmi les principaux producteurs de la région, on compte le vignoble Wapoos Estates, Wapoos, W-A-U-P-O-O-S, qui est situé dans la localité du même nom. C'est un domaine superbe qui borde le lac Ontario, site enchanteur. Plusieurs cépages y sont cultivés, les vins de très bonne qualité, du moins si je me base sur ceux qu'on a dégustés, c'était très bon. L'endroit compte plusieurs salles de réception, un restaurant. D'ailleurs, on se préparait à accueillir une noce le jour de notre visite.
Ah oui.
Alors, c'était l'endroit rêvé pour ça. Et parmi d'autres activités, ben, je mentionne un lieu nommé Lake on the Mountain, très populaire, à environ 20 minutes de Picton. Un petit lac situé en haut d'une colline qui surplombe une grande baie du lac Ontario, avec un autre point de vue extraordinaire. Et c'est spécial parce que là, on parle d'un lac qui surplombe un lac. Alors, sur le bord d'un petit lac, vous voyez le grand lac. C'est vraiment drôle. Et si vous avez envie de casser la croûte, là, bien, l'endroit compte deux restaurants, un avec une magnifique terrasse qui permet de profiter de cette belle vue. Et je termine avec un coin de nature sauvage, un peu à l'écart de la civilisation, à peu près à 45 minutes de Picton, le Prince Edward Point National Wildlife Area. C'est une pointe qui avance dans le lac Ontario à l'extrémité sud-est du comté. Alors, on y retrouve quelques courts sentiers de rando, dont un qui se rend à l'ancien phare à l'extrémité de la pointe. Et on peut y voir au loin les navires marchands qui transitent par le Saint-Laurent et les grands lacs. On se sent un peu au bout du monde quand on est là. C'est très beau.
Bon, alors, on peut aller au bout du monde sans aller très loin.
Et voilà.
Sans dépenser c'est trop d'essence, parce que l'essence coûte cher. Mais tout ça, c'est à entrer en considération. Et moi, je connaissais un petit peu l'endroit, parce que j'ai vécu en Ontario longtemps. J'ai étudié à Ottawa, j'ai travaillé à Toronto et tout ça. Et je suis déjà allé dans ce coin du monde où j'ai des amis aussi que je connais bien là-bas. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi prendre un bus. Je pense que ça reste à Kingston. Et puis, de là, on peut toujours prendre soit un vélo ou... Bon, c'est un peu loin pour ceux qui sont moins en forme, mais on peut aussi prendre une automobile et puis se rendre là-bas. Et c'est sûr que c'est des coins qu'on connaissait moins parce que, c'est pas exotique comme Ogunquit, qui n'est pas du tout exotique.
Oui, tout à fait, oui.
Mais ça fait du bien. Ça change un peu les choses. Et puis, en même temps, on reste chez nous et on fait vivre l'économie locale.
Excellente idée.
C'est quand même important. André, j'ai beaucoup aimé cette chronique. Nous, on se revoit dans 2 semaines. On va parler d'éphémérides à ce moment-là.
Absolument. À bientôt.
À très bientôt.
Bye-bye.
Alors moi, j'ai le temps de vous dire qu'un peu plus... Je vais vous parler de météo, tiens. On a le temps de le faire puisqu'il fait beau aujourd'hui. C'est ensoleillé, maximum 28. Malheureusement, ça va être lourd. Hein, l'humidex à 33 ici au Québec, 36 en Ontario. Je dois vous dire que l'indice UV, là, va être très élevé. Alors, il faut prévoir de la crème solaire. On dit ça, je sais que ça a l'air un peu fou de le répéter, mais les cancers de la peau sont de plus en plus élevés.
Malheureusement.
Parce que nous sommes de plus en plus exposés au soleil pour toutes sortes de raisons, dont les changements climatiques. Alors, le sud et le centre du Québec, l'Ontario, hein, ça reste ensoleillé. Il y a peut-être quelques exceptions. Saguenay et Gaspésie, c'est de la pluie. 21 à Gaspé et puis 26 au Saguenay, avec des humidex élevés, là. On attend aussi des averses et des orages dans le nord ontarien. Ça reste là aussi chaud et humide. C'est aussi humide dans les provinces de Maritimes avec des averses aujourd'hui et un humidex à 30. C'est plus frais à Terre-Neuve et c'est aussi ensoleillé dans l'ouest du pays. Pas d'humidex, fait 21 à 24. Après la pause, nous aurons notre chronique économique avec Michel Poitvin et on va parler de ce film « L'héritier des secrets » avec l'actrice Nadia Kunda. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Mauvais garçon me rabaisse, me dit que je suis pas belle comme ça, que je sais rien, qu'il est jamais heureux avec moi. Mauvais garçon dit qu'il m'aime, mais il voudrait tout changer chez moi, jusqu'à ma façon d'être, de sortir et de rire aux éclats. Mauvais garçon me rabâche, tout est de ma faute si je l'écoute. Il veut pas que j'aille en boîte, que je parle, que je danse avec d'autres. Mauvais garçon me dénigre, me donne tous les noms d'oiseaux, mais les oiseaux, eux, sont libres. Le son amour est une prison, mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Il faut que j'arrête de voir mauvais garçon. Mauvais garçon tient les fils, c'est moi le pantin. Un jour sur deux il est mignon, un jour sur deux il est pire qu'un mauvais garçon. Je les tire et moi j'apprends les lois de l'amour, j'y connais rien. Et plus je cours, mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête. On m'a dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon. J'ai retrouvé l'amour de moi qui m'attendait. Maintenant je sais que plus jamais mauvais garçon ne m'éteindra. Mais moi je reste, dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête,
Mauvais garçon par Elena.
Eh bien, à la chronique économie avec Michel Poivin, qui est professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal, on va parler de choses importantes. On va parler de gros sous. Et là, je parle d'argent et non pas d'alcool. Bon, excusez-moi, cette farce était facile à faire. Bonjour, Michel.
Bonjour, Denis Martin.
Alors, on parle donc aujourd'hui de la Fed aux États-Unis qui décide de laisser son taux au niveau actuel, de donc 3,75.
Oui, on l'avait annoncé la semaine dernière. Là, il y a une décision de la Fed qui a été prise en milieu de semaine dernière de laisser le taux au niveau actuel. Puis le taux d'intérêt aux États-Unis, c'est une fourchette de 3,5 à 3,75. Alors qu'au Canada, c'est un chiffre. Là c'est une petite fourchette avec un écart de un quart de point. La décision, c'était 9-3. Là, il y a des gouverneurs de la Banque fédérale qui votent. Là, ils sont 12. Donc, 9-3 en faveur du maintien des taux à leur niveau actuel. Par contre, il y en a trois qui ont voté pour une hausse d'un quart de point. Ils n'ont pas majoritairement, donc le taux reste inchangé. Mais on voit qu'il y a quand même certaines personnes là, dans la Banque fédérale américaine là, qui aimeraient que les taux soient haussés. Pourquoi? L'inflation est depuis plusieurs mois en haut de la cible de 2 %. En mai, elle était à 4,2. Par contre, en juin, il y a une petite relâche à 3,5. Puis, ce qui arrive aux États-Unis en ce moment, puis un peu partout dans le monde, l'inflation est fortement influencée par la guerre en Iran. Puis, malheureusement, la guerre en Iran, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des semaines, ça va bien. Il y a d'autres semaines, ça repart. Ouais. Ça semble être une espèce de yo-yo géopolitique qui est difficile à suivre. Puis, l'inflation, on suit ça. Alors, la Fed avance un peu dans un brouillard, là, sans trop savoir où aller. Pour le moment, ils ont décidé de laisser les taux échangés. Et plusieurs s'attendent à ce qu'au moins une fois à l'automne, il y ait une hausse de taux là, si l'inflation persiste en haut de 3 %.
Ça risque de nuire aux chances d'élection là, des républicains lors des midterms hein, à l'automne. C'est tout ça continue à s'envenimer.
Une dimension importante, l'inflation, puis plus spécifiquement le prix de l'énergie. Là, les Américains sont très sensibles au prix qu'ils paient à la pompe. Et puis avec la guerre en Iran, bien, le prix à la pompe a augmenté beaucoup. Il a redescendu un peu. Au début de la guerre, il avait pas mal augmenté. Il a redescendu quand il y a eu des dépenses. Mais là, la semaine dernière, les hostilités repartaient. Trump a promis une espèce d'apocalypse. Là, il semble être revenu en arrière. Bon, sans trop de surprise. Puis en ce moment, on est dans une période calme. Pour combien de temps ça va être à suivre? On espère que ça va durer. Là, mais...
C'est à suivre de jour en jour, Michel. avec le président présentement aux États-Unis, les choses vont d'un côté ou de l'autre, de tous les bords, tous les sens. Et puis, ben, c'est ça. Je pense qu'il faut ça.
Effectivement, il est difficile à suivre.
Bon, il y a quand même aussi quelque chose qui le concerne et qui nous concerne, nous. C'est qu'il y a 25 États démocrates. J'en ai parlé dans les unes tout à l'heure. Non, j'ai pas le temps d'en parler dans les unes tout à l'heure. Les États démocrates qui contestent juridiquement les droits de douane de l'administration Trump.
Oui, en fait, les 25 États, les manchettes des journaux, les coins, excusez-moi un peu, on disait 25 États démocrates, c'est 23 démocrates et 2 républicains qui sont le Vermont. Je l'avais noté ici, le Vermont puis le Nevada.
Oui.
Qui sont
le Vermont est démocrate, je pensais que c'était. Et républicain, je pensais qu'il était démocrate. Ah ben. Pas grave, on va leur vérifier pendant que...
Non, mais il faut faire attention, puis là, je ne vais pas donner exact, mais il y a les sénateurs, puis ça doit être les gouverneurs d'État. Donc, c'est possible que les sénateurs du Vermont soient démocrates, mais que le gouverneur soit républicain.
Okay.
Ça, c'est possible. Là. C'est, d'après moi, c'est ce qui expliquerait la petite imprécision.
Oui, gouverneur, oui.
Oui, alors on confirme que le gouverneur est effectivement est républicain. C'est bon.
Phil Scott.
Exact. Ouais. Puis les deux sénateurs sont probablement démocrates, là.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on conteste juridiquement? L'administration Trump a imposé à la fin juillet des tarifs de 10 à variant 10 et 12,5% contre les pays qui, en guillemets, ne luttent pas contre suffisamment contre le travail des enfants, notamment dans les produits qu'ils importent là, dans leur chaîne d'approvisionnement. Alors, pour expliquer un petit peu ce qui a mené à cette contestation-là. Souvenez-vous, en avril 25, le gouvernement Trump, à grande pompe, avait annoncé des tarifs réciproques sur à peu près tous les pays dans le monde. Et puis, en février 26, la Cour suprême a décidé d'annuler ces tarifs-là, les jugeant illégaux. Alors, suite à la décision de la Cour suprême en février dernier, l'administration Trump va imposer des tarifs temporaires pendant 5 mois. Mais après 5 mois, ces tarifs-là disparaissaient. L'échéance de ces tarifs temporaires, c'était à la fin juillet. Et donc, pour maintenir la politique tarifaire que le président aime tant, on a imposé ces nouveaux droits. La raison officielle, c'est l'incapacité, je cite, là, l'incapacité de ces pays, les pays visés, là, ils sont entre 60 et 80. J'ai vu un article qui disait 60, l'autre 80. Donc, c'est un grand nombre de pays. Ce sont les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Puis va revenir sur certains de ces pays. Donc, la raison principale, l'incapacité à adopter et à faire respecter efficacement une interdiction visant l'importation de biens produits grâce au travail forcé. Alors, la loi invoquée par l'administration Trump pour imposer ces tarifs à la fin juillet, c'était l'article 301 de la loi sur le commerce de 1974 qui permet de sanctionner les pratiques commerciales qui sont jugées déloyales. Donc, si on importe des biens qui ont été produits par des enfants, l'administration Trump dit, ben nous, on combat ça. Si les autres pays ne le font pas, c'est déloyal. Mais disons qu'ils ratissent large. C'est difficile à croire qu'il y a autant de pays qui laissent faire le travail des enfants. Là.
Mon Dieu, oui. Je pense qu'on peut regarder froidement et se dire, bon, ben écoute, M. Trump cherchait des excuses pour mettre des tarifs.
Exactement. Donc, c'est quoi ces tarifs? 10 % pour les pays qui ont des mesures en place, mais jugées insuffisantes. Donc, le Canada, nous, on est là-dedans. Le Mexique, le Royaume-Uni. Donc, ça ne semble pas être les pays les plus bandits de la planète. Puis 12,5 %, ça, c'est certain. Il y en a d'autres à 10 % puis la plupart des autres sont à 12,5 %. Il y a un grand nombre de pays européens. Là. Les pays visés regroupent 99 % des importations américaines, mais ce ne sont pas tous les produits qui sont ciblés. Donc, on a ciblé seulement certains produits, j'imagine, pour donner une crédibilité à cette excuse-là. Là, si ça avait été des tarifs qui avaient ratissé large, ça aurait été plus facile à contester. Alors, on a ciblé certains produits. Pour le Canada, les produits ciblés ne sont pas inclus dans l'accord de libre-échange. Donc, on a quand même le respect de cet accord-là qui est encore là, même s'il n'a pas été renouvelé, là, il perdure jusqu'à son échéance. Donc, les 25 États américains, évidemment, la plupart sont démocrates, Californie, New York, Hawaï, puis encore une fois, deux républicains. Donc, la plainte est déposée au Tribunal fédéral pour le commerce international. Là, l'acronyme, c'est CIT en anglais. Donc, qui est une instance juridique ou administrative au gouvernement américain qui juge sur la légalité de, par exemple, cette action du président Trump. Alors, puis, ils ont quand même, là, quand on regarde la contestation, ils ont quand même des bons arguments, là, parce qu'on peut trouver légitime de dire, bien, s'il y a des pays qui vraiment exploitent les enfants, soit directement ou par le biais d'importation, ces pays-là devraient être, en guillemets, punis par des tarifs. Mais la loi, la fameuse loi qui est invoquée, elle prévoit que il faut, lorsqu'on invoque cette loi-là, il faut citer dans l'invocation l'absence de un mécanisme pour que les pays sanctionnés pourraient adopter qui mettrait fin aux droits de douane. C'est-à-dire que si tu exploites indirectement les enfants, mais là, il faudrait dire, bien là, si le pays fait telle ou telle chose, on va juger que c'est suffisant, puis on annule le droit de voile. Il n'y a aucun mécanisme comme ça, ce qui est contraire à la loi. Donc, ça, c'est le premier argument des États contestataires. Puis le deuxième, c'est que le même notre pauvre M. Greer, là, qui est en charge du commerce international aux États-Unis, il a dit que la procédure annoncée, je pense qu'il n'a pas été très habile, là, pour rétablir les droits de douane, puis il n'a fait aucune mention dans son annonce du travail forcé. C'est un peu comme s'il avait invoqué ça après. Là. Donc, un peu comme vous le disiez, c'est vraiment comme une excuse. Là, et puis même dans son annonce, il a dit que ces tarifs, nouveaux tarifs, étaient imposés pour assurer la continuité avec les droits de douane mis en place par le gouvernement, puis annulés par la Cour suprême. Alors, donc je pense que l'annonce n'a pas été très, très habile, puis ça a ouvert la porte ou ça a plus ouvert la porte à la contestation là, par les États. Ça, donc, ça va être à suivre. Là. Donc, ça serait intéressant là, si c'était jugé illégal, montrer un peu que le président Trump, il n'a pas tous les pouvoirs, puis il y a quand même un système de justice aux États-Unis qui, parfois, peut aller dans le bon sens, là, puis s'assurer que les lois américaines sont respectées.
Tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, c'est une saga hein, à suivre parce que, bon, on lui dit non, il essaie d'une autre façon, mais bon, à suivre. Ouais, et puis surtout qu'avec les élections de mi-mandat qui s'en viennent à l'automne, présentement, les sondages disent que les Républicains vont perdre beaucoup de plumes, ce qui ferait qu'ils ne seraient peut-être pas capables de contrôler la Chambre des représentants. Et puis peut-être ça va être plus difficile pour lui d'avancer des choses comme ça. Puis,
c'est ça.
Ouais, on verra, on verra.
Peut-être le Sénat, là. En même temps, je pense que c'est ce qui arrive du côté des démocrates. Il y a beaucoup de candidats démocrates qui sont relativement pas mal à gauche.
Ouais.
Il y a beaucoup d'Américains qui sont un peu allergiques à cette gauche-là. Là, quand Trump dit les traites de communisme, bon, évidemment, c'est une exagération.
Ouais, ouais, ouais.
Ça résonne dans la tête de plusieurs Américains. Ah, là. Oui. Donc, il faut espérer que les démocrates vont comme être habiles politiquement pour profiter de la situation.
Oui, un pays tout à fait divisé. Hein. C'est assez spécial. Ça vient comme ça ici aussi. On ne peut pas non plus regarder puis pas voir dans notre propre course ce qui se passe. Michel Poitvin.
Non, c'est ça, mais en même temps, quand on est au Canada, on peut critiquer nos dirigeants, mais quand on se compare, on peut quand même se consoler.
Tout à fait. J'aime beaucoup quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Bonne semaine, Michel. À la semaine prochaine.
Merci.
Au revoir.
À la semaine prochaine, au revoir.
Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Et ici l'amour c'est beaucoup beaucoup trop superficiel. On fait que te répéter un jour il tombera du ciel. Et c'est toujours le même discours, de belles paroles. Bientôt vous serez à court, non. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout, je rêve d'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attrustera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Ici l'amour c'est beaucoup beaucoup trop conceptuel. On fait que te répéter les hommes, les femmes sont si cruels. Et c'est jamais comme au cinéma. Décidément on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève aussitôt que le jour se lève. Je m'en vais faire tout, je rêve d'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attristera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Ne change. Thank you.
Un jour, je marierai un ange, par Pierre Demar.
Le film L'héritier des secrets de Mohamed, pardon, j'ai une petite erreur avec mon texte encore, de Mohamed Natif, qui prend l'affiche ces jours-ci, aborde une épineuse question de secrets de famille. C'est pas moi qui est dyslexique, je pense que c'est mon clavier d'ordinateur qui l'est. Farid, c'est un médecin. Excuse, on l'entend rire. Je vais la nommer tout de suite, puis on va expliquer ce qui se passe. Alors, bonjour Nadia Kounda, qui joue dans ce film qui s'appelle L'héritier des secrets. Très beau film. Donc, bienvenue à l'émission, Nadia. Ça va bien?
Bonjour et merci pour cette belle invitation.
Oui,
et
merci. Désolée d'avoir...
C'est une bonne journée pour discuter.
Oui, il fait beau et tout ça. Et puis, c'est ça, comme je disais, mon clavier, je pense, d'ordinateur est dyslexique. Alors, je suis désolée, je vais reprendre ça. Farid est un médecin esthétique au Maroc. Il n'avait que 3 ans quand son père disparaît, supposément pour suivre une autre femme. 36 ans plus tard, il reçoit une lettre de Montréal et la vérité éclate au grand jour. Une vérité qui va complètement bouleverser sa vie. Puis je pense que je vais laisser à Nadia nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce film, parce qu'elle incarne le rôle de Sophia, qui est l'épouse de Farid. C'est ça.
Effectivement.
Oui.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Donc, c'est l'héritier des secrets, en effet, dans lequel je joue le personnage de Sophia, la femme de Farid, qui est le rôle principal donc, du film, qui va un jour être séparée malgré lui de son père parce que sa mère découvre que son père, que son papa, en fait, se travestit. Mmh. Chez elle à la maison et donc c'est une honte, c'est une grande trahison pour elle.
Ouais.
Parce qu'elle n'arrive pas à comprendre en fait qui peut être encore amoureux d'elle mais se faire plaisir et se sentir femme tout en étant femme en fait. Et donc elle lui demande de quitter la maison, de partir très loin et de dire qu'il est parti pour une autre femme et cacher justement son identité pour toujours.
Ouais.
Chose qu'il fait et donc c'est le fils qui en souffre. Évidemment, la femme en souffre, mais le fils aussi en souffre. Et quand il grandit, il trouve des lettres que son père lui a envoyées à partir du Québec, parce que son père est venu s'installer au Québec pour vivre librement son identité d'homme transgenre. Et donc, voilà. Donc, il écrit des lettres à son fils pour lui expliquer la vérité. Et c'est à ce moment-là que Farid, qui a déjà la quarantaine, découvre que son père ne l'a jamais quitté pour une autre femme, mais il l'a quitté pour être lui-même une femme. Et donc, le fils part au Canada, au Québec, à Montréal, à la recherche de son père pour se réconcilier avec cette histoire-là.
Oui, parce que c'est ça, il apprend que son papa est mort, hein, c'est dans une espèce de recueil. Là, oui. Et fait son papa, qui est aussi, c'est sa papa maintenant. On parle donc de transidentité, et je trouve ça intéressant parce que c'est un sujet qui est tellement de l'art présentement dans notre
oui.
monde. Donc, Azedine qui devient Aziza. Comment ce genre de sujet, je sais que vous vivez au Canada, mais bon, vous avez quand même dû travailler sur ce film et on a dû en parler. Comment ce genre de sujet est accepté ou pas au Maroc?
Alors, il faut savoir que ce qui est bon dans cette histoire, c'est que le centre cinématographique marocain qui finance en grande partie le cinéma marocain, les films marocains, a soutenu ce film et donc c'est grâce à eux qu'on a eu la plus grosse partie du financement pour pouvoir faire ce film. Donc, à ce niveau-là, il y a cette liberté-là de pouvoir parler des sujets de manière assez libre. Le film a aussi fait des festivals nationaux au Maroc. Donc ça aussi, ça prouve qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Maintenant, c'est plus la manière dont le sujet, je pense, a été traité qui a été fait de manière assez intelligente et douce. Parce que oui. Mohamed Nadif a justement choisi de parler de ce sujet-là à travers une histoire d'amour entre un père et son fils. Donc, quand on voit le film, au final, on sort avec ça, on sort avec l'émotion qu'on ressent à la séparation et pourquoi est-ce que... qu'est-ce qui fait qu'on voudrait séparer un enfant de son père ? Il n'y a rien qui justifie cela, peu importe les choix qu'on fait dans sa vie. Et donc, Mohamed Nadif a gagné ce pari tout en parlant de transidentité, mais à travers une histoire familiale... une histoire familiale émouvante et humaine.
C'est très émouvant. Puis j'aimerais parler de votre rôle, Nadia, parce que je pense que les gens qui vont voir le film, d'abord, on la trouve un peu rébarbative, cette Sophia, mais elle a ses propres combats.
Alors moi, je représente un peu dans le film ces gens-là que voilà, qui existent dans notre société, qui de l'extérieur dégage une certaine liberté, on va dire, mais qui dans leur tête sont assez bornés, fermés. Et donc Sophie, en fait, elle est du moment que ça, elle n'a pas les mêmes valeurs, on va dire, que Farid. C'est une femme qui tient à son petit confort. Elle fait partie de la bourgeoisie marocaine. De l'extérieur, elle s'habille de manière assez libre, encore une fois.
Oui, très occidentale, oui.
Et effectivement, elle est très occidentale et c'est ce qu'on croit. Mais quand on va à l'intérieur, et c'est-à-dire ça à ses réflexions et à ses pensées, c'est là qu'on découvre qu'il y a un réel blocage. Et ça, c'est on ne peut rien contre ça parce que Farid tente bien que mal de lui expliquer que justement, il faut respecter la liberté des autres, etc. Mais cette pauvre femme ne comprend pas et décide de le quitter. Juste parce qu'elle refuse d'avoir des enfants qui vont avoir un grand-père transgenre, quoi. Donc, on parle vraiment d'une société hypocrite. Et c'est une réalité qui existe encore.
Ben, moi, j'avoue que Mohamed Nadif a vraiment exposé un côté peut-être pas glorieux de la société marocaine. Et puis, mais j'aimerais que les gens regardent ça avec un petit recul et un petit peu d'humilité parce que ce que j'ai vu là, moi, c'est pas des choses qui me sont infamilières. J'ai vécu ça au Québec aussi, on le voit. Mais j'aime beaucoup cette franchise dans le propos. Et qui fait en sorte qu'on ne déteste pas Sophia. On pourrait la détester parce qu'elle prend des décisions qu'on trouve difficiles, mais finalement, on finit par comprendre ce combat. Et elle n'est pas la seule personnage à vivre cette espèce de combat.
Mais oui, quand t'as quelqu'un qui a subi un lavage de cerveau et on peut parler de transidentité, comme on peut parler de beaucoup d'autres sujets.
Mais le fait d'avoir d'enfants ou pas.
En fait, d'avoir des enfants ou pas, ou de religion, ou de politique. Je veux dire, quand on grandit dans un milieu où l'on ne laisse pas l'espace de la liberté de penser, ben, à un moment donné, les gens deviennent comme les gens qui les entourent. Et il ne faut pas oublier qu'au Maroc, déjà, il y a ça, il y a le fait qu'il y a un article qui condamne des comportements sexuels entre deux personnes hétérosexuelles non mariées qui donc justement pénalise l'homosexualité, mais aussi les personnes transgenres. Donc déjà, on vit dans un pays où il y a des lois qui dictent ce qu'on doit faire. Et puis après, il y a la famille dans laquelle on habite. Donc c'est clair que tu as des personnes qui sont beaucoup plus empathiques et qui sont beaucoup plus réfléchies et qui vont faire un effort et essayer de s'ouvrir au monde et de comprendre l'autre. Et puis tu as d'autres personnes qui vont juste suivre à la règle ce qu'on leur dit de penser, ce qu'on leur dit de faire. Et Sophia fait partie de ces gens. On lui a dit que l'Occident, c'est très bien, qu'elle était libre, donc elle y croit. Mais au final, comme ces sujets-là sont assez tabous, on n'a pas l'occasion de mettre ça sur la table, d'en parler ouvertement en famille, etc., ben, en fait, elle a un blocage. Elle n'arrive même pas à s'imaginer au-delà de ça, parce qu'il y a aussi le « que dira-t-on ?» la honte, le poids de la honte. Pour elle, c'est une maladie. Dès qu'elle a vu les photos, les premières photos de transformation du grand-père qui s'est transformé, qui passait de homme à femme, déjà, pour elle, on parle d'une maladie.
Ben oui.
Et donc, en fait, son cerveau n'arrive même pas à intégrer cette pensée-là. Parce que peut-être que pour elle, c'est limite héréditaire. Si le père fait ça, ben, mon mari va faire ça, et peut-être que mon enfant aussi. Je veux dire... Ça crée des angoisses, de l'anxiété et puis des peurs qui n'ont aucun sens parce que la personne n'est pas assez alertée, n'est pas assez éduquée à ce sujet-là. Oui. Et donc, quand on a peur, on fuit.
Alors, moi, je vais vous le dire, je termine là-dessus. C'est un très beau film à voir. Moi, ça m'a touché et j'avoue que j'étais content quand je savais que je vous recevais, quand j'ai vu le film. Ah oui, j'aime beaucoup. C'est pas le personnage plus facile du film. Alors, c'est intéressant de vous parler. Et je vous remercie, Nadia Kounda. Le film est à l'affiche bientôt, présentement, c'est ça?
Bientôt, oui. Il va être bientôt en
7 août. Oui, 7 août, oui, j'ai la date devant moi.
Oui, merci de me rappeler la date.
C'est le 7 août. Félicitations, merci beaucoup. J'espère qu'on va vous revoir souvent au cinéma. Merci.
Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.
Nadia Kunda, qui joue donc dans le film dont L'héritier des secrets de Mohamed Nadif. Après la pause, nous allons avoir cette chronique littéraire avec Anne-Marie Aubin, hein, des nouveaux sujets de livres à lire et un petit retour sur les actualités qui touchent les personnes de la diversité capacitaire, intellectuelle et en fait, de ce qu'on appelle nos para-actualités. Ça s'en vient tout de suite après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Je crois t'avoir déçu, mais je reprends le dessus. Au lendemain, je ne serai plus la même. Tu m'as attendu pour ça, je suis ému. Je croyais jamais tomber sur toi, mais voilà ma chance. Voilà ma chance. Think of you almost too much to tell the truth. Yeah, you keep me up at night. How did we ever get so far? I hate that I played a part. Can we go back? If I'm being honest, it all just feels different. Almost like we never shared a dream. I'm on my mind and you're out of reach. I think it's more than time we speak. Je crois t'avoir déçu, mais je reprends le dessus. Au lendemain, je ne serai plus la même. Tu m'as attendu pour ça, je suis ému. Je croyais jamais tomber sur toi, mais voilà ma chance. Oh, voilà ma chance.
Ma chance par la formation A Girl Named Sue.
Au para-actualité aujourd'hui, on commence avec le Journal de Montréal du 4 août. Une femme âgée de 47 ans, atteinte d'une forme particulièrement virulente de sclérose en plaques, a fait le choix de donner ses organes et son cerveau à la suite d'un processus d'aide médicale à mourir. Le geste d'une grande générosité de la part de Caroline Goulet aura permis de venir en aide à 4 personnes en attente de greffe, tout en offrant une contribution significative pour la recherche scientifique. Diagnostiquée en 2015, Mme Goulet a vu son état de santé se dégrader de manière fulgurante à partir de 2023, passant d'une pleine autonomie à la quadriplégie, ou la quadriplégie, qu'on dit en français, excusez-moi, en seulement 18 mois. Cette évolution extrêmement rapide de la maladie demeure exceptionnelle de nos jours, selon les spécialistes du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Au-delà du don d'organes destiné au greffe, la décision de céder son cerveau au réseau de recherche clinique permettra à des équipes médicales du CHUM ainsi qu'à des chercheurs internationaux d'analyser des tissus d'une qualité rare pour approfondir la compréhension des mécanismes de la sclérose en plaques. Et dans Radio-Canada, du 2 août, À Calgary, une innovation technologique appelée Think2Switch permet désormais à des personnes vivant avec un handicap moteur sévère ou une paralysie cérébrale de contrôler des objets et de communiquer par la force de la pensée. Mise au point après 10 ans de recherche par sa fondatrice Diane Kelly, cette plateforme fonctionne à l'aide d'un simple bandeau posé sur la tête qui capte les signaux cérébraux et les traduit en actions concrètes. Le signal enregistre d'abord l'activité cérébrale au repos, puis détecte l'empreinte d'une pensée active pour déclencher instantanément le fonctionnement d'un appareil connecté. Conçu pour être compatible avec des casques grand public afin de rester abordable pour les familles, le dispositif s'imprime déjà comme une solution majeure dans 9 pays, notamment en Australie, aux États-Unis et au Canada. Et puis dans le Journal de Montréal du 3 août, au Québec, seulement 10 à 11% des décès naturels surviennent à domicile. Ce taux est nettement inférieur à la moyenne occidentale et au reste du Canada, qui tourne autour de 30%. Des intervenants du milieu de la santé et du Conseil pour la protection des malades dénoncent l'hospitalocentrisme du système québécois qui privilégie les structures hospitalières au détriment du soutien à domicile. Des données indiquent qu'une majorité de citoyens souhaiteraient passer leur dernier moment chez eux. Selon des praticiens en soins palliatifs et des experts du réseau, un meilleur accompagnement à domicile permettrait de respecter la volonté des patients tout en diminuant la pression sur les services d'urgence et le transport ambulancier. Des facteurs structurels ainsi que des enjeux d'isolement social sont également soulevés pour expliquer cet écart observé dans la province.
Je sais plus ce que je crois. Une jolie mort que je ne voulais pas. Ce que j'ai dans le cœur, ce n'est plus vraiment toi. Ce que t'as dans le ventre, dis-moi toi c'est quoi. On voulait se vivre, mais là on se broie. Si je t'aime encore, est-ce que tu nous aimeras? On s'est tenu, on s'est aimé, on s'est tordu, là c'est trop. C'était perdu d'ailleurs, je te dis que je t'aime, mais c'est faux. Un repos éternel de la tendresse immortelle qui voulait vivre dans mon corps. Si j'ai hier toi encore, j'ai pas parti, je t'ai pas retenu, j'ai pas tenu ma promesse. On s'est aimé si fort, ça me tue encore ta tristesse. J'étais seule, t'étais chaud, ma gueule brûlante sur ta peau et tes mains sur le dos, incendie.
L'amour en terre vivant par la bronze.
Oui, bien c'est le temps maintenant de passer à notre chronique livre. On va rejoindre Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Quelle belle suggestion aujourd'hui de publication Mère-Fille pour les jeunes. On commence donc avec le premier titre.
Le prouteur rayé.
C'est pour ça que je te le fais dire.
Alors, c'est pour tout savoir sur ce rongeur méconnu aux éditions 400 coups. Mm-hmm. Ça vient de paraître, je crois que ça sort en librairie aujourd'hui. C'est une drôle d'histoire, en fait, qui a été inventée et créée dans la tête d'une petite fille de 5 ans qui s'appelle Anne Leblanc. Mm-hmm. Et sa mère a poursuivi l'inspiration, a écrit avec elle pendant quelques temps. Elle a proposé ce texte-là à Orbi, qui est une illustratrice qui vit en Gaspésie, puis qui est bien connue pour son humour et puis ses livres complètement éclatés. puis, bon, ben, elle a accepté. Et puis, elle a rencontré des élèves à Carleton-sur-Mer, puis à Newport. Et ensemble, ils ont ce prouteur lié, quelque chose qui ressemble à lié, mélangé avec un peu d'odeur de mousse, là. Parce que...
Oup, on a un petit problème de communication. Oui, on
donc, va... ouais. Bon, puis là, ben, le personnage en question, créé par la petite fille, ben, sa caractéristique, c'est qu'il pète. Et il fait des pets puants, comme des enfants parfois aussi. Alors, sur ce thème des pets, il y a des dizaines de livres qui existent déjà pour les jeunes. Il fallait y donner une couleur qui soit différente pour qu'ils se distinguent. Alors ici, on y a ajouté un petit caractère, là, je dirais, pseudo-scientifique. Donc, on explique pourquoi ce personnage-là fait des pets et comment ça se produit. Donc, son prouteur rayé, lui, elle nous décrit comme si elle faisait un exposé oral en classe. Puis elle nous dit, ben, il y a des petites moustaches, des petites pattes, un nez rond. Puis là, peu à peu, après des élaborations scientifiques, comme combien de secondes entre le moment où on voit un éclair puis qu'on entend le tonnerre, ben, elle dit que c'est à peu près pareil comme quand quelqu'un fait un pet en silence et que l'odeur se rend jusqu'à nous. Bon, c'est un exemple d'explication scientifique. Ensuite, elle dit, le prouteur marin nage grâce à des pets en bulles et il est fréquemment observé en Gaspésie et serait responsable de la formation de cheminées hydrothermales. Bon, un autre aspect scientifique qui est illustré brillamment par Orbi, bien sûr. Et puis, les enfants qu'elle a rencontrés dans les écoles, ils ont fourni plein d'exemples de prouteurs. C'est pas le dessin qu'elle allait faire, elle, mais elle voulait plutôt qu'il se laisse aller dans le l'imaginaire. Et ça, ça m'a fait penser. Oui. C'est comme si on ouvre un album.
Je vais t'interrompre, Anne-Marie, parce que peut-être changer de position ou de...
On a du mal à m'entendre?
On a un petit peu de mal, oui, ça pixelise par moment. Pixelise, c'est un terme de vidéo, mais on va le dire pour le... On a un petit peu de perte auditive, oui.
Je comprends, c'est très désagréable. Est-ce que c'est
Non, c'est beaucoup mieux là. On va continuer. Ne bouge plus de là.
Alors, finalement, pour résumer tout ça, c'est une histoire de pet qui se distingue des autres histoires de pet avec son aspect scientifique, mais amusant, plein d'humour, qui a été nourri dans l'imaginaire d'Orbi par des enfants qu'elle a rencontrés dans des écoles primaires. Et puis, elle a mis les dessins de ces enfants-là dans le couvert 4 des livres au début puis à la fin de l'histoire pour leur laisser la place comme quoi ils avaient vraiment contribué au livre. Alors, Orbi, comme toujours, excelle à illustrer des affaires complètement fous. Elle a beaucoup d'imagination, puis elle met toujours énormément de détails dans ses dessins. Et dans celui-là, elle a utilisé beaucoup les crayons, comme les enfants qui décident pour vraiment rejoindre le premier croquis de la petite fille qui s'appelle Anne. Et certaines pages sont comme des bandes dessinées, d'autres sont des illustrations pleines de pages, et d'autres, finalement, sont résumées à une ou deux phrases. Alors, qui sait si à la lecture de ce livre-là, il n'y a pas des jeunes lecteurs qui vont avoir envie d'écrire avec leur mère un album, mais tous n'auront peut-être pas la chance de trouver une illustratrice professionnelle pour faire leur livre. L'idée, c'est peut-être d'illustrer, d'inventer.
Hmm. Oui, on manque...
Une observation. C'est ça.
Je pense que je vais te faire répéter ce que tu viens... Oui, je t'interromps encore. Je vais te faire répéter ce que tu viens de dire. On a manqué. Il y avait encore une perte de son, là.
Il faut dire qu'ici, il fait une grosse tempête de vent.
Ah, c'est peut-être... ça n'aide pas. Alors... Oui, avec le temps qu'il fait présentement, ça ne doit pas aider les ondes cellulaires, ça, c'est clair.
Exactement. Fait que je conclue en disant que ce livre-là, c'est ce vœu, une explication fantaisiste de ce qui fait que parfois dans une pièce, ça pue, mais on ne sait pas qui a pété, puis personne ne veut avouer qu'il a pété. Alors, bref, un livre amusant avec des petites allusions scientifiques pour les enfants, je dirais, de 5 ans à 6 ans à peu près.
Ah, ben, ça a vraiment l'air rigolo. C'est quelque chose que je vais peut-être vouloir lire éventuellement. Tu sais que je lis des livres pour enfants, j'adore ça. Ça me distrait. On va aller au prochain titre, Dodo Mocha.
Oui, là, c'est un autre livre encore d'une mère avec sa fille, mais deux professionnels cette fois-ci. Laurence Aurélie et Daniel Marcotte ont plusieurs publications à leur actif. Et puis, bon, ben, c'est sûr que Laurence a été influencée par sa mère, qui est une écrivaine professionnelle. Et ensemble, elles ont écrit un livre sur la fameuse séance du dodo le soir, le bain, les enfants ne veulent jamais, puis à l'heure du dodo, ils veulent faire mille choses. Alors, ils ont illustré un personnage qui n'a pas vraiment de genre, qui est non-genré, qui s'appelle Mocha. et qui joue à mille choses au moment d'aller se coucher. Et c'est un personnage qui a beaucoup d'imagination. Donc ici, contrairement à Orbi, qui met plein de détails dans ses illustrations, l'illustratrice qui s'appelle Isabelle Charbonneau a plutôt laissé ça, je dirais, libre à l'enfant, avec des petits détails que les parents vont saisir, mais il y a des très belles couleurs franches et ça s'adresse à un public plus jeune, je dirais 3 à 6 ans. Alors donc, au moment d'aller au lit, Mocha a mille choses à faire autre que d'aller se coucher. Et dans l'illustration, ces jeux se confondent avec la réalité. Donc, il y a comme deux niveaux de lecture dans les images. On voit le bain, où il faut qu'il prenne son bain, mais en même temps, il y a comme des personnages qui sont des personnages merveilleux qui sont là. Alors, dans cette alternance entre le réel et l'imaginaire, on suit la démarche du coucher qui est parfois pénible pour les parents et on comprend la stratégie des parents aussi pour arriver à le faire obéir puis aller au lit. Parce qu'on comprend que tous ces personnages merveilleux autour de lui, l'ogre et la sorcière, ben, ce sont ses parents. Alors, je lis un petit extrait. Au bord de l'étang, un serpent menace une grenouille. Mocha doit vite la secourir. La grenouille est dans le bain et devient un étang avec des quenouilles, une libellule, un nénuphar, un canard et la douche téléphone, un serpent. Bon, tout cela, c'est suggéré par l'illustratrice, bien sûr. Ensuite, c'est très rythmé et il y a des rimes. Ça pourrait presque être chanté. Alors, par exemple, je vais dire, il y a un monstre sous mon lit, une horrible sorcière et un méchant loup. Alors, ils veulent l'envoyer se coucher. Et puis là, l'enfant, il y a un dialogue qui s'installe entre la maman qui est la sorcière, le papa. Et puis bon, ben finalement, grâce à tout ce qu'il y a autour, les jouets, les personnages merveilleux, l'enfant va tomber dans l'histoire et va peut-être écouter. C'est peut-être en fait pour des petits-enfants qui bougent tout le temps, comme Mocha. Et puis bon, ben il y a un vocabulaire qui est très riche, les illustrations sont très réussies. C'est rempli de mille qualités et puis c'est adapté à des enfants de cette heure-là sans tomber dans du béaba. Il y a quand même, je dirais, un texte très riche et ça, c'est très réussi. Puis c'est important parce que on pense pas que c'est parce que c'est un enfant de 4 ans qu'il faut lui parler dans un minimum de langue, là. Moi, je pense que l'ajout de vocabulaire est très important. Puis, c'est un livre qui est, je dirais aussi, qui est plein de poésie dans le choix des mots. Il y a des petits passages qui riment. Alors, ça ajoute au texte. Bref, une très belle histoire pour tous les jeunes qui, bon, n'ont pas trop envie d'aller au lit, qui vont peut-être se faire prendre par ce récit bien écrit par Laurence Aurélie et sa mère, Danielle Marcotte. Et puis, c'est aux éditions Spacité Jeunesse.
Et je vais terminer en annonçant quelque chose. En fait, je suis directeur, je fais d'autres choses dans la vie, je suis directeur artistique aussi de Fierté littéraire. Hier, c'était l'événement Le combat aux mots. Et pour la deuxième fois, je pense, depuis l'existence de cet événement-là, qui est dans le cadre de Fierté Montréal, c'est un livre pour enfants qui a gagné. Je ne sais pas si tu connais.
Ah, oui?
Oui, c'est le livre s'appelle « Dans la nuit, tu te dévoiles » d'Isabelle Jameson et Sylvain Cabot. Ça te dit quelque chose? C'est aux éditions Les 400 coups aussi.
Alors, 400 coups. Ah.
Oui, et c'est un livre qui parle donc de la transidentité, mais d'un point de vue d'un enfant. C'est vraiment très bien. Ben moi, comme je suis directeur artistique, j'avais à le lire aussi. Et c'est la drag queen Barbada qui a défendu ce titre dans le combat. C'est comme un combat des livres, mais c'est un combat homo. C'est un combat avec des livres queer qui sont présentés dans le cadre de Fierté littéraire et 4 personnalités. Donc, Barbada, c'était sa première participation. Elle a gagné. Le livre a gagné.
Ah, c'est bien. Ben oui. Et puis ce livre-là, justement, il a été retenu comme un livre qui n'a pas de genre. Donc, le livre de Mocha, là.
Oui.
Et puis, bon, j'ai vu qu'il était déjà cité dans des revues littéraires à ce sujet-là, parce que c'est vrai que quand on regarde le petit personnage, il a un chapeau de cow-boy, puis un petit cheval, mais il est ni garçon ni fille, puisqu'on ne voit pas tellement ses traits dans son visage. Et c'est voulu. Alors, c'est en fait, j'ai oublié de le dire, mais ça, c'est une réédition d'un livre qui est paru en 2010, donc 15 ans plus tard, et l'on refait au goût du jour.
Ah, c'est génial. Merci beaucoup, Anne-Marie. Ouais. On se parle la semaine prochaine, c'est ça?
Dans 2 semaines.
Dans 2 semaines. OK, ouais. Ben, dans 2 semaines. Au revoir. Au revoir.
Baby, dis-moi, dis-moi, t'es où? Encore perdu dans les nuages? Pour me perdre, tu serais prêt à tout, sauf montrer ton vrai visage. Baby, et toi qui veut tout? Prisonnier de ton image? Ouais, tu fais toujours des jaloux, mais tout ça n'est qu'un mirage. Tu peux
peux garder tes compliments, tous les cadeaux et les diamants. On voit la vie différemment. Tu sais, je suis pas comme ça, moi je m'en fous. I just wanna have some fun. Le soleil est au rendez-vous, j'ai pas besoin de personne. Je suis pas comme ça, moi je m'en fous. I just wanna have some fun. Hasta la vista, baby. J'ai besoin de personne. Baby, dis-moi, dis-moi, tu m'aimes. Tu sais, j'en ai rien à faire. Tu peux me réciter tous tes poèmes. Ou bien me pleurer des vierges. J'ai pas besoin de tout ça. Ou du chant de l'année. Oui, t'as un petit je sais quoi. Mais je serai jamais ton trophée. Tu peux garder tes compliments. Tous les cadeaux et les diamants. On voit la vie différemment. Tu sais, j'suis pas comme ça, moi je m'en fous.
Des couches de vêtements, j'ai caché tout de moi. Un bonnet sous le soleil, une écharpe en été. Mes parents m'habillaient par peur que j'attrape froid. Alors que chez moi, il n'a jamais neigé. Battais tout le monde à cache-cache à la récré. J'ai pris du temps, j'ai fini par me trouver. Les vêtements tombent, de toute façon ils étaient troués. La peau se montre, j'en assume les plis, les plaies.
Tout nu, sans aucun voile et sans retenue. Comme sur les fresques, les peintures et les statues. Ma peau s'abîme si je n'en montre pas les couleurs. Regardez-moi sans prendre peur, tout nu. Moi c'est comme ça que je veux apparaître tout nu. Comme sur les fresques, les peintures et les statues. J'ai la peau fragile et sûrement trop de pudeur. Regardez-moi sans prendre peur. J'ai fait du chemin, j'ai changé je crois. Maintenant je n'ai plus peur du froid. J'ai rangé les manteaux, cadenassés les armoires. Je me suis mise à nu, acceptant le reflet du miroir. Fini les jours sans fin à me sentir perdu. Besoin d'ouvrir mon cœur, de raconter mon vécu. Et dans vos yeux, je veux être perçu. Tel que je suis, que je veux être. Tout nu, sans aucun voile et sans retenue. Comme sur les fresques, les peintures et les statues. Ma peau s'abîme si je n'en montre pas les couleurs. Regardez-moi sans prendre peur, tout nu. Moi c'est comme ça que je veux apparaître tout nu. Comme sur les fresques, les peintures et les statues. J'ai la peau fragile et sûrement trop de pudeur. Regardez-moi sans prendre peur.
De ce doublé musical, on vient d'entendre « Tout nu » par Franck Lenard et juste avant, c'était « Besoin de personne » par la formation Bébé Puma.
Il reste un peu de temps, donc je retourne au grand quotidien aujourd'hui, Le Devoir. Une entente de principe est enfin intervenue, on le sait, hier, entre WestJet et le syndicat représentant ses 4400 agents de bord. Donc, ça m'a fait un bref débrayage, mais le retour à la normale s'amorce ardu pour les voyageurs. Le conflit a causé l'annulation de près de 500 vols et perturbé les déplacements de dizaines de milliers de passagers en pleine période estivale. Même si les avis de lock-out et de grève sont levés et que le personnel réintègre ses fonctions, la reprise des opérations se fait progressivement. Cela entraîne encore des retards et des incertitudes dans les aéroports. Le transporteur aérien invite ses clients à vérifier l'état de leur vol avant de se rendre à l'aérogare. La remise en place des appareils et des équipages à travers le réseau s'échelonnera sur plusieurs jours. On se rappellera, l'an dernier, c'était Air Canada. Il me semble que ça a pris pratiquement 2 semaines avant que tout reprenne le service. Bon, évidemment, là, on est dans une catégorie où il y a beaucoup de vols internationaux. C'est peut-être un peu plus compliqué, mais on verra. Et puis, ben, les membres du syndicat devront, quant à eux, se prononcer sur la ratification de cette entente de principe au cours des prochains jours. Et je rappelle que vous avez des droits. Alors, conservez tous les reçus de toutes vos dépenses liées à cette situation. Le transporteur doit vous honorer votre réservation et trouver un autre vol dans les 48 heures, que ce soit sur ses propres vols à cette compagnie ou une autre compagnie aérienne. Et si cela ne convient pas, vous pouvez obtenir un remboursement intégral de ce montant. Il y a aussi des obligations pour vous loger et vous nourrir pendant que vous attendez vos vols et pour compenser vos pertes de salaire, parce que certains tentaient de rentrer à la maison et ils n'ont pas pu travailler. Alors tout ça, là, c'est prévu dans la loi. Alors, conservez tous vos billets, tout ce qui est important, tout ce qui touche ce voyage pour vous faire rembourser si quelque chose vous arrive. En tout cas, peut-être les gens ne nous écoutent pas parce qu'ils sont à l'extérieur puis ils ne savent pas ce qui se passe, mais si vous connaissez des gens qui ont voyagé, ben, textez-leur, dites-leur, il faut garder tout ça. Et un autre dans Le Devoir, toujours ce matin, ben, on en a parlé avec Michel Poitevin. Eh bien, une bataille juridique s'intensifie aux États-Unis autour des politiques commerciales de la Maison-Blanche. 25 États états-uniens, à majorité démocrate, dont on a parlé de deux qui étaient républicains, sont en cours pour contrer cette nouvelle série de droits de douane imposés par l'administration de Donald Trump. Les plaignants ont déposé une requête devant le Tribunal fédéral pour le commerce international. Ils accusent le président d'avoir contourné les décisions antérieures de la Cour suprême en utilisant de façon détournée une loi fédérale de 1974 sur le commerce. Cette contestation vise les nouvelles surtaxes de 10 à 12 000 % entrées en vigueur le 24 juillet dernier, qui touchent les importations en provenance de plusieurs dizaines de pays et de l'Union européenne. Les procureurs généraux menant la fronde, notamment celui de la Californie, soutiennent que ces tarifs douaniers illégaux font augmenter injustement le coût de la vie pour les familles et les entreprises états-uniennes. Rapidement, un rappel météo, sud, centre du Québec, Ontario, ensoleillé, maximum 28, c'est lourd, l'humidex est de retour, c'est 33 jusqu'à 36 en Ontario, indice UV élevé. Il y a des exceptions, Saguenay, Gaspésie, c'est de la pluie, mais c'est quand même humide. Il y a des orages dans le nord de l'Ontario, mais ça reste là aussi chaud et humide. Des averses ce matin dans les provinces maritimes, alternant soleil et nuages dans la journée, là aussi ça va être humide, 27, humidex 30, sauf à Terre-Neuve où c'est plus frais. Et généralement ensoleillé dans l'ouest du pays, 21-24, pas d'humidex. Je m'appelle Denis Martin Chabot. J'ai le plaisir et l'honneur de remplacer Hélène Denis pour un petit bout, c'est au mois de août. Elle sera de retour en septembre. Je remercie aussi Maurice Bolduc à la technique et je vous souhaite une bonne journée et on est de retour, nous, demain à 9h30.